Bonjour les amis, vous pouvez vous asseoir. Vous avez invité un vieux à parler, donc vous savez que les vieux, ils aiment avoir leurs aises. Et, ou alors j'aurais dû apporter une casquette, mais avoir le soleil sur moi, surtout que j'ai beaucoup de cheveux, ça me gêne beaucoup. Donc, excusez-moi, je bouge un petit peu tout ça. J'espère que ça ne va pas trop créer de problèmes pour la mécanique. Ça va aller, Timothée, ça va aller. Je ne vais rien casser. Bonjour. Voilà, ça ira comme ça. Très bien. Voilà, nous sommes toujours heureux, Marie-Lise et moi, de nous retrouver avec vous. Nous voyons que vous nous accueillez toujours chaleureusement. Merci beaucoup. Voilà, et vous avez aussi les salutations chaleureuses de vos amis de Lunel. Comme nous sommes peu nombreux à Lunel, en été, au mois d'août, beaucoup partent. Alors il nous a semblé un peu compliqué de faire le culte pour 2-3 personnes. Donc voilà, ça nous donne l'occasion de venir. Et c'est pour nous une joie. Aujourd'hui, je voudrais traiter avec vous un thème d'actualité, un thème de circonstance. C'est pas l'affaire Ben, je ne sais plus comment, là. C'est pas la Coupe du Monde de football non plus. Non, ce sujet que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est tout simplement l'été, la canicule, la sécheresse et la soif. J'illustre. Quel été, chers amis, quel été, quelle canicule. Vous avez vu, il y a des incendies terribles en Grèce, en Suède, du jamais vu. Et au cercle polaire, il fait 30 degrés. C'est monté jusqu'à 30 degrés. Pas de pluie, pas d'eau. Je ne sais pas si vous avez vu les images du Colorado. Il y a eu un reportage, c'était impressionnant. Vraiment impressionnant. Quelle sécheresse. Il y a de plus en plus de régions dans le monde qui souffrent de sécheresse, qui sont privées d'eau. Ne pas pouvoir se rafraîchir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que... Ça nous touche là, hein, surtout en ce moment où il fait bon là, ne pas pouvoir se rafraîchir, ne pas pouvoir étancher sa soif. Je suis un privilégié. J'illustre. Vous savez, je me rappelle il y a quelques années, lors d'une convention à Villefranche, nous étions allés visiter Lyon et il faisait vraiment très très chaud. Il n'y a pas que dans le midi où il fait chaud, il faisait très très chaud. Et ce jour-là, nous avions une soif. On est parti, on était à Lyon, on était dans le nord, on n'a pas apporté d'eau. Voilà. Nous étions dans un bus soi-disant climatisé. On avait à peine un petit air, soi-disant rafraîchissant. Et là, comme toujours, dans ces bus, il y a un plaisantin qui se met à parler et à raconter des histoires, à vous mettre l'eau à la bouche. Il racontait comment, avec ses amis, le soir, à la fraîche, il prenait l'apéritif ou il buvait de l'eau bien fraîche. Et nous, on était là, on tirait une langue, et on n'avait pas d'eau, on ne pouvait pas boire. Alors, lorsque le bus, enfin, s'est arrêté, eh bien, on est descendu, là, dans un quartier de la ville, et nous avons acheté de l'eau fraîche. Enfin, l'eau n'était pas fraîche, le prix était salé, mais nous avons bu comme si nous étions sans boire depuis des jours et des jours. Alors, quelle épreuve terrible c'est de se retrouver et dans un lieu désert, par exemple, ou même dans une ville, et de manquer d'eau. Oui, parce que ce n'est pas simplement dans le désert que le danger existe. C'est terrible et c'est un danger. Manquer d'eau, c'est un danger, et un danger terrible. Et même dans nos pays, avec la canicule, les dangers de déshydratation sont réels, en particulier pour une certaines catégories de la population dont nous faisons partie à quelques-uns ici. Même pour les bébés aussi, il paraît. Rappelez-vous en 2003. En 2003, il y a eu plus de 15 000 morts. On a attribué, il y a eu un dépassement, si vous voulez, de 15 000 morts supplémentaires en France pendant la canicule. Et à ce propos, les médecins font une remarque très intéressante. Ils soulignent le fait que ces personnes fragiles perdent la sensation de soif. Et ils se déshydratent sans même s'en rendre compte. Et il faut donc les réhydrater. Alors je me suis dit que finalement, éprouver la soif, même si c'est très dur, c'est une bonne chose. Parce que sans la soif, nous ne nous rendrions pas compte que nous sommes en train de nous déshydrater, que nous manquons d'eau, et nous mourons en nous desséchant, vous savez, comme ces figues au soleil. C'est terrible. Donc, somme toute, on peut se dire que la soif que nous éprouvons, eh bien, elle témoigne du bon fonctionnement de notre organisme en nous avertissant que nous avons un besoin essentiel à satisfaire, nous hydrater. Le manque d'eau, s'il se prolonge, il est mortel pour tout être humain et pour la plupart des êtres vivants. Le manque d'eau est mortel. La soif exprime un manque vital. Si je m'arrêtais là, vous pourriez boire une coupe, chers amis, mais je ne vais pas m'arrêter là. Parce que tout ça me fait penser aux paroles de Jésus lorsqu'il parle à cette femme samaritaine. Vous savez, vous connaissez tous cette histoire, hein, je pense, lorsqu'il descend de Galilée et il va en Judée et il traverse la Samarie. Et il devait faire chaud aussi à cette époque-là et à ce moment-là. C'est vers midi et il est épuisé, Jésus. Il s'arrête au bord d'un puits pour boire, pour demander de l'eau. Le texte nous dit que c'est le puits de Jacob, et là, une femme est en train de puiser de l'eau. Cette femme ne se doutait pas qu'elle allait passer à la postérité, parce qu'elle allait rencontrer un homme qui allait changer sa vie. Et cet homme allait lui proposer une eau merveilleuse. Une eau, lui dit-il, une eau vive qui ne manquera jamais. Une eau qui deviendra source de vie pour tous ceux qui en ont bu. Lisons juste quelques versets au chapitre 4, les versets 9 et 10. La femme samaritaine lui dit, donc elle répondit à Jésus, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Au premier abord, elle trouve cet homme bizarre, présomptueux même. Le puits de Jacob, il est là, il est abondant. Il est généreux, il est frais, et il répond aux nécessités quotidiennes de cette femme, et pas que de cette femme. Et voici que cet homme-là, qui se permet de lui parler à elle, une samaritaine, cet homme-là veut lui offrir une eau de qualité supérieure, une eau qu'il a appelée une eau vive. Sur sa bouteille, elle a marqué une eau vive. Alors ici, on a l'impression qu'il y a un malentendu, que la Samaritaine n'est pas sur la même longueur d'onde que Jésus. Elle ne saisit pas le sens des paroles que Jésus lui dit. Elle reste sur son terrain à elle, son terrain d'eau, de puits de Jacob, alors que Jésus veut l'entraîner vers des réalités spirituelles. Et au début, il semblerait que finalement, on n'arrivera pas à s'entendre. Mais Jésus va continuer à parler. Il va continuer à expliquer. Vous connaissez tous le texte. Et cette Samaritaine, elle discute. Elle argumente, elle conteste. Mais à la fin, Jésus va l'amener sur son terrain. Et cette femme va se poser la bonne question. Vous savez, quand elle va retrouver ses voisins dans le village, elle va dire, ne serait-ce pas le Christ ? Quand elle parle de cet homme qui lui a demandé à boire, ne serait-ce pas le Christ ? Et là, notre Samaritaine commence à découvrir sa soif de Dieu. Cette femme, certes, parce qu'elle est un être humain, a besoin de l'eau du puits de Jacob. Il est là, il est très utile. Mes chers amis, comme il est heureux qu'elle puisse, parce qu'elle est un être humain créé à l'image de Dieu, éprouver cette soif au fond de son cœur, ce vide en forme de Dieu, que seule l'eau vive offerte par Jésus peut désaltérer et combler. Excusez-moi. Ici, une première question me vient à l'esprit. Et nous, chers amis, et nous, nous qui avons, comme je l'espère, les pieds sur terre, parce qu'il faut avoir les pieds sur terre, est-ce que nous avons encore et toujours soif des réalités spirituelles ? Avons-nous toujours soif de Dieu ? Souvenons-nous ce que disent les médecins. Les personnes fragiles ne ressentent plus la soif. Vous savez, les morts n'ont pas soif. Hein. Le psalmiste, quant à lui, dit sa soif de Dieu. Il est dans une situation difficile. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face ? Oui, chers amis, bienheureux psalmiste, car sa soif de Dieu témoigne qu'il est en vie, qu'il est vivant. Pourtant, comme je le disais, c'est un homme qui souffre, c'est le chant d'un exilé qui languit après les sources, il languit après le temple de Jérusalem, les sources vivantes de la maison de l'Éternel. Il est comme un animal hébété, agonisant dans un paysage aride, sec, privé de la bienfaisante présence de Dieu. Mais malgré cette situation d'épreuve, de difficulté, par le seul fait qu'il soupire après la présence de son Dieu, il est bienheureux. Et bienheureux sommes-nous, chers amis, lorsque nous avons soif de Dieu. Car tout son être tend vers son Dieu, et son attente sera comblée. Jésus n'a-t-il pas déclaré « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Jésus est venu pour révéler au monde ce besoin vital de Dieu. Bien plus, il est le seul, il est celui qui peut assouvir la soif de Dieu qui est au fond de tout être humain. Il dira, nous le trouvons plus tard dans l'évangile de Jean au chapitre 7, il s'écriera lors de la fête des tabernacles, « Si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. » Cette fête des tabernacles qui remémorait pour chaque participant ce miracle extraordinaire de Moïse qui frappe le rocher et l'eau coule. Chers amis, si nous nous sentons saisis par le manque de Dieu, je fais exprès de parler du manque de Dieu comme je parlerai du manque d'eau. Je veux dire, lorsque nous sentons notre communion avec le Seigneur faible ou inexistante, et cela pour bien des raisons, lassitude, difficulté, épreuve, sentiment de culpabilité aussi, ou encore lorsque nous ne voyons pas de réponse à nos prières. Ne restons pas dans cet état de désivation spirituelle. Commençons d'abord par rendre grâce à Dieu, parce que nous sommes encore en vie si nous éprouvons cette soif et ce besoin. Et ensuite, approchons-nous de celui qui seul peut nous donner l'eau de la vie. Le seul qui peut nous donner l'eau de la vie. Lui seul peut étancher notre soif. Lui seul peut nous conduire à nouveau à puiser avec joie. C'est important ce que dit le prophète Ésaïe. Puiser avec joie aux sources du salut. C'est lui seul qui peut nous y conduire. Le chemin, nous le savons, est exigeant. Tout vrai chrétien vous dira cela. On n'est pas sur la lune, on a les pieds sur terre. Le chemin est exigeant, le terrain est aride, le soleil darde de ses rayons de feu. Si nous ne prenons pas la précaution de nous abreuver constamment en lui, par la prière, par la méditation et par la mise en pratique de sa parole, par la communion fraternelle, eh bien nous ne pourrons pas arriver au bout du voyage. Ou au mieux, nous serons comme ces malades que l'on réhydrate par perfusion. Je voudrais juste lire la suite de ce que dit Jésus au chapitre 7, lorsqu'il s'adresse à la foule. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Écoutez bien, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les fleuves d'eau vive sortiront de lui. Celui qui met sa foi en Jésus étanche sa soif. Mais non seulement, bien plus, il devient à son tour une source d'eau vive. Je crois qu'ici, il faut souligner une vérité importante. Maintenant, les rachetés du Christ portent en eux la vie jaillissante que communique le Saint-Esprit. Maintenant, nous avons en nous, chacun de nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous avons en nous cette source jaillissante. J'en prends bien soin de dire et de préciser, il dit cela de l'Esprit qu'il devait recevoir, c'est-à-dire ceux qui croiraient en lui. Déjà, le prophète Ézéchiel énonce cette promesse d'alliance nouvelle. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. » Ézéchiel 36, versets 25 et 27. Oui, Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance et il est le dispensateur de ses bénédictions. À celui qui entre dans cette nouvelle alliance, non seulement il accorde le pardon des péchés, mais il le baptise aussi. Il le plonge en quelque sorte. Il le plonge dans le Saint-Esprit. Il l'immerge dans le Saint-Esprit, puisque baptiser veut dire immerger. Il le plonge dans le Saint-Esprit. Il le remplit du Saint-Esprit. C'est ce que dit toujours l'apôtre Jean, évangéliste au chapitre 1. Il entend cette parole, « Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est celui qui baptisera, qui vous baptisera du Saint-Esprit. » Écoutons ce que dit John Stott. « L'eau vive qui étanche la soif du voyageur épuisé et qui irrigue le monde desséché est la plénitude de l'Esprit Saint. L'eau vive qui étanche la soif du voyageur épuisé et qui irrigue le monde desséché est la plénitude de l'Esprit Saint. Et c'est Jésus qui nous le donne. Comment pouvons-nous, il continue, Stott, comment pouvons-nous goûter cette plénitude vivifiante qui redonne la force et étanche la soif ? La réponse est celle-ci. Et la réponse, c'est ce que dit Jésus ici, dans Jean 7. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. En passant, je vous fais un peu de pub pour un petit fascicule qu'il a écrit, je pense, il y a des années et des années. Je pense qu'Albert le connaît, puisque j'en ai un chez moi, il y a ton nom dessus, donc j'ai fait un héritage. C'est du baptême à la plénitude. C'est vraiment très, très bienfaisant à lire. Oui, chers amis, nous avons besoin physiquement. Physiquement, nous avons besoin de boire chaque jour, chaque fois que nous avons soif. Plusieurs fois par jour, et maintenant encore plus. Cela est vital, nous l'avons dit. De même, nous sommes toujours, je dirais, en état de soif spirituelle, ou il faudrait que nous soyons en état de soif spirituelle, et que sans cesse nous revenions au Christ pour nous désaltérer. C'est lui qui nous plonge dans l'eau vive du Saint-Esprit. Le Christ. Et c'est ainsi que le trop-plein va déborder et va jaillir de nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est comme une inondation, chers amis. C'est comme une inondation, mais une inondation positive. Une inondation de bénédiction. Le Saint-Esprit en nous déborde de bénédiction pour les autres. Il déborde de bénédiction pour les autres, motivé par l'amour. Ainsi, on peut dire que le signe de cette réhydratation spirituelle et bienfaisante, cette réhydratation complète et constante, le signe, c'est l'amour. L'amour agapé. Aux Corinthiens, vous savez, ils étaient fiers, les Corinthiens, parce qu'ils étaient remplis de dons de l'Esprit. Paul le rappelle au début du chapitre 13. Il leur envoie une petite douche froide. Il leur rappelle que tous les dons les plus excellents, même s'il n'y a pas l'amour, ils sont sans valeur. Ils ne sont rien. Je ne suis rien, dira-t-il, qu'une espèce de trompette qui résonne. Le don de l'Esprit par excellence, c'est l'amour agapé, celui qui porte au service du prochain. Et c'est cela le signe en nous, comme quoi le Saint-Esprit nous abreuve, comme quoi nous sommes vivants et désaltérés. L'apôtre Jean, dans son épître, donne beaucoup, beaucoup de tests, si vous voulez, pour rassurer ses correspondants, leur montrer qu'ils sont réellement en Christ. Et un des tests les plus forts qu'il leur propose, c'est le test de l'amour, justement. C'est ainsi que les rachetés du Christ, parce que le Christ leur donne l'Esprit Saint, parce que le Christ les plonge dans l'Esprit Saint, c'est ainsi qu'ils deviennent source d'eau vive. C'est cela, chers amis, que le Seigneur veut pour nous, pour chacun de nous. Aussi incroyable que ça puisse paraître, on n'aurait pu jamais imaginer cela. Il veut qu'à notre tour, nous soyons des sources qui répandent l'eau vive. Quelle grâce, quelle grâce. Celui qui boit de l'eau vive non seulement est réhydraté, pardonné, rendu à la vie, mais il est aussi maintenant rendu capable de porter à son tour l'eau de la vie à celui qui a soif. Mais attention, ici, Attention, parce que l'eau vive ne jaillit pas du disciple. Il n'en est même pas celui qui la donne. Il est seulement celui qui la porte. Oui, chers amis, le Seigneur nous veut porteurs d'eau, porteurs d'eau vive. Et le climat spirituel dans notre pays, c'est la canicule. Et depuis bien longtemps, hélas, c'est la canicule. Alors en conclusion, je vous laisserai une question. Sommes-nous des canalisations de cette eau vive ? Sommes-nous des canalisations plus ou moins bouchées ? Comment jaillit-elle de nous ? Comment jaillit-elle de nous pour réhydrater aux sources du salut tous ceux qui autour de nous sont en danger de mort ? Leur avons-nous offert ne serait-ce qu'un verre de cette eau vive ? C'est vrai que par les temps de canicule, ceux qui portent l'eau doivent d'abord se réhydrater eux-mêmes pour qu'ils soient forts. Mais ce n'est pas pour leur propre confort. C'est pour aller au secours de ceux qui ont soif. Et comme Jésus l'a fait pour la Samaritaine, les porteurs d'eau devraient être capables, parce que le Saint-Esprit est en eux, devraient être capables de faire jaillir cette foi, cette soif de Dieu. Tel est l'objectif de Dieu pour chacun de nous. L'objectif de Dieu pour chacun de nous. Objectif magnifique, chers amis. Et là, je vais me faire tout petit. Parce qu'il faut avouer, pour que je vous dise, qu'en écrivant ces lignes, je me suis dit, mais Flavien, là, tu pars dans les nuages. C'est très bien. Et je me suis senti découragé. Parce que moi-même, je dois être honnête avec vous, moi-même, je ne suis pas toujours assoiffé de Dieu, loin de là. Mes centres d'intérêt, mes affections, mes préoccupations me font oublier mon besoin vital de Dieu. Mais que voulez-vous ? J'ai les pieds sur terre, c'est bien. Le cœur aussi, c'est bien. Un peu trop peut-être. Un peu trop. Toutefois, je ne vais pas vous laisser sur cette pensée négative. Toutefois, une autre pensée me console et m'encourage. La vie chrétienne, c'est un cheminement. Et je suis en chemin. Comme chacun d'entre vous, nous sommes en chemin. Et sur ce chemin, le Seigneur m'accompagne. Cela, j'en suis sûr. Cela ne dépend pas de moi. Il fait route avec moi. Vous savez, ces deux disciples qui descendaient à Emmaüs, ils étaient desséchés, ils étaient secs. Jésus les rencontre. Ils descendaient. Et quand ils ont rencontré Jésus, ils vont remonter. Oui, Jésus fait route avec moi. Jésus me connaît, il sait ce que je vaux. Chers amis, si vous me connaissiez comme me connaît Jésus, vous vous diriez, mais qu'est-ce qu'il fait là en train de nous faire la leçon, celui-là ? Mais devant vous, voilà, je veux simplement ouvrir mon cœur. Et vous dire ma joie, parce que je sais que sur ce chemin-là, le Seigneur m'accompagne. Il fait route avec moi, il veille à ma progression. Et vous savez, Jésus ne se contente pas de me tendre un bidon d'eau, comme font les suiveurs du Tour de France. Il me donne aussi la soif. Il me redonne la soif pour que je puisse avoir ce désir de me réhydrater. Et cela, je le désire de tout mon cœur, me réhydrater aux sources du salut avec joie. Je le veux de tout mon cœur. Et je sais qu'il ne me laisse pas. Car je suis persuadé que celui qui a commencé en moi, en vous, en nous, l'apôtre dira en vous, celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Pour l'instant, je suis en chemin. Nous sommes en chemin ensemble, chers amis, pour l'instant. Mais le Seigneur est là avec nous. Quelle grâce! Quelle grâce! Tout est grâce, même le fait que nous soyons porteurs d'eau. Je termine en lisant un très beau texte de l'Apocalypse. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Seigneur, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-nous cette soif constamment. Amen. Je vous propose peut-être pour terminer de chanter